Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Gateka Kawe. C'est le moment du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. La situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée au Burundi malgré le nouveau régime d'Évariste Ndayishimiye. Le rapporteur spécial de l'ONU au Burundi l'a bien précisé aujourd'hui à Genève en Suisse lors de l'examen périodique sur les droits de l'homme. Et puis, arrestation de 5 militants du parti CNL à Kayogoro dans la province Makamba en début de cette semaine. Leurs familles s'inquiètent pour leur sécurité. Conducteurs de motos et de véhicules en province Kayanza, ils dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise distribution de carburant. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Son homme est mort à succès hier matin. Jérémy Lukerandanga habitait la colline Mugano en commune d'Itirani de la province Muyinga. Les sources sur place disent qu'il est tombé dans un fossé de 20 mètres de profondeur qui servait de latrine. Le corps de la victime a été retiré du fossé par la police de la protection civile pour être enterré dignement. Et puis la situation des droits de l'homme au Burundi n'est pas rassurante malgré les quelques améliorations sous le régime du président Évariste Ndayishimiye. Certains policiers et Imbonerakure continuent à commettre des bavures ici et là dans le pays. Ce sont des propos tenus ce jeudi à Genève par le rapporteur spécial de l'ONU sur le Burundi. C'était lors de la présentation de la situation des droits de l'homme au Burundi. De leur côté, les représentants du Burundi déclarent que le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme est manipulé sur la situation au Burundi. Ils font remarquer que les libertés civiles et politiques sont une réalité. Eddie Claude Ninazwe pour plus de détails.
Dans cette session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme, il est question d'examiner le rapport sur la situation des droits de l'homme produit par le rapport spécial mandaté. Fortuné Gaïta Zongo démontre dans son rapport que la situation des droits de l'homme reste une préoccupation et dénonce la force du Service national des renseignements qui découle de l'autorité de la présidence de la République et ce service est cité dans l'ingérence au bon fonctionnement des institutions de la République. Le rapporteur spécial dans son rapport alerte la communauté internationale sur la situation politique actuelle que des signes avant-coureurs qui se projettent sur les violences d'ici aux échéances électorales de 2025. Fortuné Gaïta Zongo est revenu sur la Commission nationale des droits de l'homme qui ne fait pas preuve d'indépendance et d'impartialité, bien qu'il ait été réhabilité pour siéger au Conseil avec son statut A. Le rapporteur spécial dénonce en caractère sélectif et vis-à-vis des cas traités par la CNDH. Cette dernière se confond en mandataire politique, cite Gaïta Zongo. Fortuné Zongo appelle les garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la conciliation entre autres les Nations Unies et l'Union africaine pour son réhabilitation car il a été un fondement de stabilité politique pendant une dizaine d'années. Le représentant du Burundi trouve que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est manipulé sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le président de la CNDH, Vinini Muraba, a indiqué que la situation des droits de l'homme s'améliore bien que des défis ne manquent pas. Les représentants de l'Union européenne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg saluent le rapport de Fortuné Zongo et demandent plutôt au gouvernement du Burundi de s'ouvrir à la coopération en permettant que le rapporteur spécial se rende au Burundi. Les représentants des Pays-Bas et Luxembourg ont dénoncé la répression des défenseurs des droits de l'homme, journalistes. Ils sont revenus sur l'emprisonnement abusif de la journaliste Floriane Irangabié et le docteur Christophe Sahabo. Le Burundi était pour la dernière fois représenté dans les sessions d'examen pour ce Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2014, d'après le président du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Tania Maria Rochol. Et du Claude Nazwe, Genève, Radio Nzamba, Agathe Kakao.
À ce sujet, le ministre des Relations extérieures et de la coopération au développement affirme que le gouvernement burundais soutient le comportement affiché par la délégation burundaise à Genève quand cette dernière a refusé de participer à la séance de lundi dernier, arguant que des membres de la société civile qui y participaient ont été condamnés par la justice burundaise qui les accuse d'avoir participé à la tentative de 2015. Le ministre Albert Shingiro l'a précisé ce jeudi après une rencontre avec des diplomates accrédités au Burundi. Écoutez-le.
La délégation burundaise a été surprise de voir dans la salle des individus qui sont recherchés par la justice burundaise ou jugés par cette dernière. Donc nous savons très bien que la lutte contre l'impunité constitue la promotion des droits humains. Donc s'asseoir avec ces gens qui sont recherchés par la justice, ce serait chercher ou promouvoir une chose de son contraire. Donc ça serait aussi promouvoir l'impunité. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'au lieu que ces gens viennent s'asseoir dans des forums internationaux, il faut plutôt que les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, nous appuient pour leur remise à la justice burundaise pour qu'ils puissent faire face à la justice comme d'autres putschistes qui sont déjà en prison pour leurs actes. Donc rester en cavale, ce n'est pas une bonne chose pour eux parce qu'ils seront éternellement recherchés. Donc ça serait mieux qu'ils rentrent au pays pour faire face à la justice. Et comme ça, ils vont commencer à purger leurs peines. Pour question d'équité, les putschistes qui sont en cavale dans les pays voisins, notamment au Rwanda voisin, doivent être remis à la justice pour qu'ils puissent venir, je le disais tout à l'heure, pour les autres putschistes se trouvant dans d'autres pays, pour faire face à la justice, commencer à purger leurs peines.
C'était le ministre Albert Shingiro. Pour l'ONG internationale des droits de l'homme, Emmanuel Trout, le gouvernement burundais risque d'avoir des difficultés auprès des bailleurs de fonds pour avoir refusé de participer à l'examen sur les droits de l'homme dans le pays. Cette analyse est de Clémentine de Montjoy, responsable de Human Rights Watch, division Afrique. Elle explique que l'attitude de la délégation burundaise à Genève prouve que les autorités veulent cacher la réalité sur les violations des droits humains au Burundi. On écoute Clémentine de Montjoy.
On trouve cette décision absolument déplorable. Elle témoigne du manque de volonté des autorités burundaises de coopérer de manière constructive avec les mécanismes onusiens, notamment ceux qui sont chargés d'examiner les droits de l'homme au Burundi. Il faut noter que le Burundi refuse toujours de coopérer avec le rapporteur spécial sur le Burundi, a fermé le bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme qui était au Burundi en 2019. Et enfin, ce qu'on trouve aussi particulièrement préoccupant, c'est que le gouvernement continue d'utiliser cette condamnation contre 12 défenseurs et journalistes en exil. Donc on appelle aussi les autorités à abandonner cette condamnation que l'on considère abusive et à mettre en œuvre des réformes réelles pour ouvrir l'espace à la société civile et aux médias au Burundi. Ça montre clairement que les promesses de réformes que l'on a entendues, notamment de la part du président Ndayishimiye, ne sont pas mises en œuvre en pratique. Et donc, comme ces promesses de réforme sont aussi liées au rapprochement que l'on entre la communauté internationale et notamment les bailleurs de fonds comme l'Union européenne, cela pourrait aussi avoir des conséquences sur ces relations, les demandes de financement qui en découlent.
Des proches des 5 militants du parti CNL arrêtés dans la commune Kayogoro de la province Makamba début de cette semaine, ils craignent pour leur sécurité et demandent qu'ils soient libérés. Selon ses proches, ces personnes détenues sont victimes de leurs opinions politiques. Les précisions avec Alain Majesté Waringa.
Ceux qui ont été arrêtés sont Serge Yamouremie, membre du comité du CNL dans les communes Kayogoro et Makamba. Il a été arrêté le 7 juin sur la colline Sameke par des jeunes Imbonerakure. Il a été accusé de viol. Selon des informations recueillies dans cette colline, son arrestation aurait été commanditée par le responsable du CNDD-FDD en commune Kayogoro. Il disait Kadoï suite à un conflit politique qui les oppose depuis longtemps. L'autre qui a été arrêté est Léon Sakoubou, membre de la série de sécurité du CNL en commune Kayogoro. Il a été arrêté le 16 juin par l'administrateur de la commune Kayogoro, Pierre Simon Nyabenda, sur la colline Nakara de cette commune. Selon les proches de sa famille, Pierre Simon Nyabenda l'accuse d'être un union extra-conjugale avec une femme qui se serait séparée de son mari. Il est poursuivi pour entretenir ses relations extra-conjugales avec une femme connue sous le nom de Georgette Nzambimana. Ces derniers a aussi été arrêté avec Léon Sakoubou parce qu'il a nié ses accusations. Les autres responsables du CNR arrêtés sont Jackson Hakirutimana, responsable du CNR sur la colline Ngaramayeye, et Samuel Rudi, chargé de la communication au sein du parti. Ils ont été alités par le chef de colline en collaboration avec les jeunes Imbonerakure du CNR. sein de DFDD, accusé d'obtenir une réunion illégale, c'était le 18 juin dernier. Selon les responsables du CNET, ont été conduits au cachet du commissariat communal de police à Kayogoro, où ils ont passé plus d'une semaine sans dossier. Les deux de la colline Ngaramaye ont été libérés par le procureur de Makamba, Claver Sabushimike, le 24 juin, mais Serge Yamouremie, Léon Sakoub et Georgette Zambimana ont été transférés au cachet du parquet de Makamba. Léon Sakoub a été lui aussi libéré avec Georges Zambimana le 28 juillet, mais il a été encore une fois arrêté de son arrivée sur la colline natale par le chef de la colline Nyenakara en collaboration avec le jeune Imbone Akure. Il a été retourné au cachot du parquet de Makamba alors que le PG qui travaillait pour le centre intégré qui luttait contre les violences faites aux femmes avait dit que les accusations portées contre lui étaient sans fondement. Les familles et les responsables du CNE demandent la libération de leurs membres étant donné que les dossiers ont été montés de toutes pièces. La rédaction de la radio Nzamba a contacté par téléphone le gouverneur de la province Makamba pour qu'il nous éclaircisse cette situation, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Inzamba.
On a suivi ce journal mécontentement chez les motocyclistes et chauffeurs de véhicules de la province Kayanzam, c'est suite à ce qu'ils qualifient de dysfonctionnement lors de la distribution de carburant. Ils accusent les policiers de ne pas assurer comme il faut l'ordre dans la distribution. Ils demandent que le carburant soit distribué conformément aux règles établies. Du point avec Pierre Garungu.
Un vent de colère souffle parmi les professionnels du transport routier alors qu'ils dénoncent vigoureusement les distributeurs de carburant ainsi que les forces de l'ordre. Ces travailleurs affirment que des pratiques discriminatoires sont mises en place lors de la distribution du précieux liquide où certains chauffeurs sont autorisés à passer devant les autres tandis que tout refus entraîne une amende imposante.
Tu peux voir une personne inconnue vous sommant de laisser passer une voiture alors que vous êtes vous-même à l'arrêt sur la ligne. Refuser cette requête apparemment anodine pourrait vous coûter une amende salée de 100 000 francs en bout au motif de désobéissance aux ordres. La situation est d'autant plus troublante qu'un policier peut intervenir pour harceler les conducteurs en frappant les motos, exigeant qu'ils cèdent le passage alors que nous sommes tous en quête de carburant.
Dans une atmosphère chargée d'exaspération, les conducteurs déplorent les conséquences dévastatrices de la pénurie de carburant sur leur niveau de vie. Ils appellent instamment les autorités compétentes à trouver des solutions efficaces à cette crise qui les plonge dans la pauvreté.
En effet, on n'a pas de bénéfice en raison de la pénurie de carburant qui sévit actuellement. Hier encore, les stations de distribution étaient approvisionnées en carburant. Mais à notre grande surprise, il a été annoncé peu après qu'il n'en restait plus une goutte. Nous avons été ébahis de constater que pendant ce temps, les véhicules seraient approvisionnés en carburant le soir venu. Face à cette situation préoccupante, nous demandons instamment une solution à la crise de pénurie de carburant, car elle perturbe grandement notre quotidien de travailleurs.
En outre, il est préoccupant de constater que dans cette province, le prix d'un litre de carburant de contrebande oscille entre 15 000 et 17 000 francs burundais. Une situation alarmante qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité et à l'intégrité des consommateurs.
Le manque de devises, le manque de transparence dans l'attribution des marchés publics et la mauvaise gouvernance sont les principales causes de la pénurie incessante de carburant dans le pays. D'après Lucidi, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les manifestations économiques, Olucam déplore le fait qu'il y ait même des autorités qui se lancent dans le commerce de carburant. Écoutez Gabriel Lucidi.
L'Olucam signale que parmi les principales préoccupations de Burundi, pour le moment, figurent le problème de déplacement lié au manque récurrent des produits pétroliers émanent principalement du manque de devises pour les importations ou des produits semi-finis utilisés dans la fabrication des produits finis par les entreprises burundaises. Les devises au Burundi proviennent essentiellement de l'exportation du café, du thé, du coton, des minéraux, de la diaspora, des investisseurs étrangers, du tourisme, de la coopération de développement et bien d'autres produits que le Burundi peut exporter. Cependant, si on exporte les minéraux, plus particulièrement les devises, 70% des devises ici de la vente de ces minéraux ne seraient pas rapatriés au Burundi. Il y a la question de gouvernance. Si la gouvernance dans le pays n'est pas au bon fixe, c'est très difficile que les partenaires burundais et bien d'autres comme les investisseurs étrangers peuvent donner des fonds. Ce qui est grave de cette situation vient de durer plus d'une année. Depuis le début de 2022, il y a une autre cause, c'est le monopole. Le monopole dans ce pays, c'est vraiment un grand problème. Je vous donne un exemple simple. Les produits pétroliers, actuellement, sont importés par une seule société dans le Rwandais, en certaine Bonaventure. La troisième cause, c'est de voir certaines autorités s'arroger le droit de s'adonner au commerce. Je dois vraiment souligner que cela est très dangereux pour l'État lui-même et les citoyens en général.
Gabriel Oussili s'exprimait ce jeudi dans une conférence de presse. Et pour clore ce journal, c'est la grogne au sein des militaires du 65e et 66e bataillon, ces militaires qui sont rentrés de la mission de maintien de la paix. ACMIS disent que depuis leur retour au pays, ils n'ont jamais eu de repos après une mission en RDC. Ils sont aujourd'hui au centre de formation de Mudugu pour 2 mois. Les détails avec mon fils Niyongeli.
Les militaires du 65e et 66e bataillon ACMIS sont depuis mardi dernier dans une formation militaire au centre d'entraînement de Mudugu. Ce dernier jette le tort au chef d'état-major général de l'armée, général Prime Niyongabo, et le chef d'état-major des forces célestes, général Nduwayo, alias Kindekere, d'être responsable des malheurs qu'ils endurent jusqu'à aujourd'hui. Selon nos sources internes, ces militaires trouvent illogique et insensé d'envoyer quelqu'un qui vient de passer toute une année sur le terrain en Somalie à combattre Al-Shabaab et une fois rentré, au lieu de lui accorder un petit congé pour le repos, tu l'envoies au Congo avec le risque d'y laisser sa peau. En plus de cela, selon les mêmes sources, ils n'ont pas encore perçu leurs indemnités ACMIS et ne sont même pas bien rationnés. À cela s'ajoute une formation de 2 mois au centre de formation de Mudugu. Selon toujours ces militaires, ils n'ont même pas fait des tests médicaux pour analyser l'état de santé avant de les envoyer suivre cette formation, comme le témoigne un de ces militaires.
Les commandants des deux bataillons n'ont pas de mots à dire sur nous. Ils disent que seul le commandant du centre de formation peut prendre une décision qui nous concerne. Ce qui est choquant et qui peut mettre en cause la santé des militaires. Premièrement, tu ne peux pas envoyer quelqu'un en formation avant de faire un test médical pour s'assurer de son état de santé. Deuxièmement, ces militaires sont dans différentes catégories d'âge. Il y a des retraités, il y a ceux qui sont en situation de handicap parce qu'ils ont combattu en RDC. Il y a ceux qui ont été handicapés en Somalie. Il y a ceux qui vivent aussi avec des maladies chroniques. Ce sont les deux personnalités avec le commandant d'ici qui sont responsables de nos malheurs. Aujourd'hui, l'infirmier d'ici n'a pas le droit de recevoir un malade ou lui signer un transfert. Vous comprenez que nous faisons face à un sérieux problème. Nous sommes traités comme du bétail qu'on envoie à l'abattoir.
Il demande aux responsables chargés des soins de santé au sein de l'état-major DCS de prendre cette question en main afin que ce genre de formation soit suivi par des militaires qui sont en bonne santé et qui n'ont pas encore dépassé l'âge, comme c'est le cas aujourd'hui pour ces deux bataillons. Face à toutes ces inquiétudes, la radio Nzambagate Kakawe n'a pas encore obtenu la version de l'armée burundaise pour plus de lumière sur ce dossier.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.